L'atelier des médias.
Dans un monde ultra communicationnel, un monde où la responsabilité et le courage ont cédé devant l'opportunisme et la navigation à vue, dans ce monde-là, chaque séquence a besoin de son affiche, de son emblème. Nous avons ouvert celle de la compassion il y a quelques jours avec un enfant mort sur une plage. C'est un peu atterrant que l'Europe détermine sa politique sous l'émotion d'une image, écrit mon ami Philippe sur son mur Facebook. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer. D'ailleurs, je continue. Une image qui ouvre enfin les yeux, comme le disait un éditorial du Monde. Certes, peut-être, mais quand même, à terme, cette politique n'est tout simplement pas tenable. C'est de la politique de gribouille. Pourquoi s'émeut-on d'un coup alors que tout le monde se fichait de la réduction de moyens financiers attribués aux camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, en Turquie? C'était là qu'il fallait agir. Fin de citation. Je repense, moi, à ces centaines de cercueils sur l'île de Lampedusa. Je repense à la manière dont tous les pays européens ont traité les Roms, ces citoyens de l'Union que l'on renvoie sans cesse vers des pays qui ne veulent pas d'eux. Je repense enfin à la Déclaration universelle des droits de l'homme et à son article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. L'immigration sera la chance de nos économies. Ce n'est pas le slogan d'une ONG ou d'un politique suicidaire, non, c'est le titre d'un éditorial signé Éric Leboucher dans le journal Les Échos. Je vous invite vivement à lire ce texte et même à l'apprendre par cœur pour répondre au frileux teinté de peur ou de racisme que l'on entend sans cesse défendre l'identité française, européenne, dans des talk-shows ou pseudo-débats. En voici les premières lignes de ce texte. Les économistes ne sont jamais d'accord entre eux, sauf sur un sujet, les bienfaits de l'immigration. Il en est bien peu dans cette profession qui soit malthusien. Pour la très grande majorité, la libre circulation des personnes conduit à plus de richesses et non le contraire. Ce sont les hommes qui créent leur travail. Plus ils sont, plus il y aura de travail. Quant aux études économétriques, elles infirment tout ce qu'affirment les populistes anti-immigration. Non, les immigrés ne prennent pas le travail des autres. Non, il ne crée pas de trous dans la sécurité sociale. Fin de citation. Le territoire et ses faux-semblants, c'est ce qui unit les trois histoires que nous allons vous raconter. Aujourd'hui, nous commençons au Vernet, dans les Alpes du Sud. Dans la deuxième partie, nous irons à Sarcelles pour découvrir Sarcellopolis, un projet multimédia qui rend hommage à cette banlieue multiculturelle pensée il y a un demi-siècle comme la ville du futur. Dans presque une heure, Francis Pisani nous expliquera pourquoi les villes n'existent pas.
RFI.
J'ai vu un avion qui passait, oh, j'ai dit il est un peu bas. Voilà, je l'ai vu pendant quoi, 5 secondes.
En fait, j'ai vu pendant 2-3 secondes l'avion à basse altitude et bon, dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il allait s'écraser quoi, parce que avec l'estro à 3 mm, voilà, c'est pas possible quoi. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait rien de spécial quoi.
Un avion pulvérisé au moment de l'impact, les débris de la Carlingue s'étalent sur près de 4 hectares de flancs de montagne très escarpés entre Digne et Barcelonnette, une zone difficile d'accès où un important dispositif a été déployé. 150 personnes se trouvaient à bord de cet appareil parti de Barcelone en Espagne pour Düsseldorf en Allemagne.
L'appareil est parti de Barcelone hier matin.
Oui, à 10h pour Düsseldorf où il devait atterrir à 11h57. Il est 10h32, il commence à perdre de l'altitude. 1000 mètres par minute, c'est deux fois plus qu'une descente normale pour se poser, mais ce n'est pas une descente d'urgence qui est beaucoup plus rapide. Les contrôleurs aériens de Marseille Contrôle se rendent compte que cela n'est pas normal, ils s'inquiètent, ils lancent certainement des appels aux pilotes qui ne répondent pas, et ils déclenchent donc l'alerte à 10h47. Alors la descente a duré 8 à 9 minutes, en silence, pas de Mayday, Mayday, Mayday qui est un signal de détresse. La 320 a perdu donc 10 000 mètres, parcouru 130 km et se fracasse sur la montagne à environ 1500 mètres d'altitude.
Le 24 mars 2015 à 10h42, le vol 95-25 de la Germanwings, parti quelques dizaines de minutes plus tôt de Barcelone en direction de Düsseldorf s'écrase dans les Alpes du Sud françaises, précisément sur le territoire du Praz-Haute-Bellonne, à la frontière de la commune du Vernet. Comme moi, vous vous souvenez de l'émoi suscité par cette catastrophe et de la consternation qui a suivi quand on a compris deux jours plus tard qu'il s'agissait d'un acte délibéré du copilote de l'avion, un suicide entraînant la mort de 149 passagers. Pour notre invité du jour, l'émotion a été particulière car il connaît bien le lieu où l'appareil s'est écrasé. Voici ce qu'il écrit sur la journée du 24 mars. Lorsque j'apprends la nouvelle, je suis immédiatement saisi d'effroi. Ces montagnes, ce sont les miennes. Depuis mon enfance, j'y passe toutes mes vacances, j'en connais tous les sentiers. Apprendre qu'une catastrophe de cette ampleur a pu se produire dans un lieu qui m'est si cher me paraît aussi inimaginable qu'insupportable. Je pense aussitôt à celles et ceux qui se trouvaient dans l'avion, aux familles qui les attendaient à Düsseldorf, à celles que les victimes malheureuses ont laissées à Barcelone. Toutes affaires cessantes, je décide de me rendre sur place. Bonjour Nicolas Balic.
Bonjour Ziad.
Tu es journaliste, tu as d'ailleurs longtemps travaillé à RFI. Tu viens de publier un livre qui a pour titre « Retour au Vernet », sous-titre « Mon village après le crash » aux éditions Gossin. Je viens d'en lire un passage, c'est un livre de journaliste témoin d'une catastrophe, acteur et témoin aussi d'un déferlement médiatique qui a suivi cette catastrophe. Et c'est enfin un journaliste et un citoyen qui a éprouvé le besoin de partager cette expérience.
Oui, de journalistes, mais aussi de pays, comme on dit au Vernet, de pays d'adoption. Parce que, je le dis, le village du Vernet, je n'y suis pas né, je suis né à Martigues, mais j'y vais pratiquement tout le temps. Et lorsque je suis arrivé sur place, et d'ailleurs quand j'ai entendu les extraits que vous avez passés, j'étais encore, je retrouvais l'émotion que j'avais eue au moment de l'annonce de ce crash. Donc lorsque j'arrive au Vernet, très vite le journaliste va s'effacer derrière presque le villageois. C'est cette double position qui va me faire hésiter entre est-ce que je suis un journaliste, est-ce que je suis un habitant du Vernet, également face au regard que je vais porter sur les médias.
Et tu as choisi de raconter cette expérience. Pourquoi ?
Au départ, en rentrant du Vernet, je n'y reste que 48 heures parce que, après la scène d'apocalypse que je vois vers 16 heures dans l'après-midi, je me retrouve devant cet avion, mais il n'y avait plus d'avion. Je me souviens, j'avais un direct prévu sur une chaîne d'info qui est iTélé, et je leur ai dit, attendez-moi, je ne peux pas parler là, j'ai rien à vous dire, il n'y a pas d'avion. Ça prend quelques secondes, mais si vous voulez, c'était de l'indicible, donc je refusais d'admettre ce que j'avais vu, qui était un avion pulvérisé, des débris avec la taille d'une portière de voiture maximum, puis d'imaginer qu'il y avait des personnes qui se trouvaient à bord. Donc je reste 48 heures et après je veux fuir. En fait, je ne sais pas pourquoi je n'aurais pas pu supporter le regard des familles. Donc je décide de redescendre 48 heures après, revenir donc dans les Bouches-du-Rhône où je réside. Et l'idée me vient d'écrire une chronique pour un hebdo, un média, je pense à Télérama. Et puis finalement je me dis que c'est un peu réducteur de faire cela. Dans les jours qui suivent, j'en parle à l'éditeur avec lequel je travaille, qui est David Gossen, sur des livres qui sont maintenant plus dans mon domaine, puisque je travaille en histoire militaire. Et il me dit, mais est-ce que vous pourriez pas... Je dis non. Et puis, il me dit, bon, réfléchissez quelques jours. Et puis, je me dis, sans insulte hein, pour mes confrères parisiens, parce que bon, c'est pas qu'ils soient parisiens ou autres, mais je me dis, peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui l'écrive, que quelqu'un qui est totalement extérieur à cette vallée, qui ne comprendra pas le traumatisme qui a été vécu. Et donc, j'écris d'une traite. Hein, tout le livre, il y a trois temps du récit, sont tous écrits d'une traite. C'est-à-dire, je ne me relis pas. C'était la condition que je m'étais fixée pour garder la spontanéité. Et ensuite, je dis à l'éditeur, on ne touchera pas à ce que j'ai écrit. Et l'autre chose qui était importante, c'est que je lui ai dit, je vais retourner au Vernet, d'où le titre du livre. Il faut absolument, une fois que toute la pression médiatique sera retombée, il faudrait que j'aille parler aux habitants du Vernet. Et c'est ce que j'ai fait.
Avant de parler de ton retour au Vernet, le livre est en deux parties. Il y a une première partie où tu racontes, en gros, donc les 48 heures que tu passes au Vernet juste après la catastrophe. Immédiatement après avoir décidé de t'y rendre, dans un réflexe donc de quasi-habitant du Vernet, mais aussi dans un réflexe de journaliste. Tu écris ceci, tu es sur la route et ce sont tes pensées. Pourquoi ai-je pris la route? Que vais-je faire là-haut? Durant les 2 heures de trajet vers le Vernet, je suis pris entre plusieurs sentiments contradictoires. Je veux absolument me rendre sur place, mais à plusieurs reprises, j'ai envie de faire demi-tour. Ma connaissance du terrain et mon expérience de journaliste me permettraient à coup sûr de réaliser un scoop, mais si j'agis de la sorte, je sais que je me mettrai en contradiction avec mes principes, car ce sont mes montagnes. Le Vernet, même si je n'y suis pas né, c'est mon village. Je ne peux faire commerce du malheur qui vient de s'abattre sur lui. Premier tiraillement entre ma profession et mes attaches, il y en aura d'autres.
Oui, en effet, je ne voulais pas faire commerce, et je ne ferai pas commerce, je le dis à vos auditeurs, je ne ferai pas commerce de ce livre, comme pourraient le penser peut-être certaines personnes. Et c'est vrai que sur l'autoroute, 2 fois, je ralentis pour prendre la sortie. Mais je me dis non, il faut que j'y aille, par compassion. Et puis, un élément important, je le dis aussi dans le livre, je prends ma caméra avec moi en disant je vais travailler.
Et tu décides d'aller tourner, et tu es le premier à réussir à le faire et à rapporter les images, d'aller tourner sur le lieu du crash.
Oui, un des premiers, hein, je dis, parce que moi, quand j'arrive au Vernet, effectivement, il y a des amis. Donc, un de mes amis, Max, a accompagné les gendarmes le matin, donc il connaît exactement la zone. On part immédiatement. Et lorsque je me retrouve avec Max devant cette scène et que je commence à tourner, je suis incapable de filmer. Je zoome, je dézoome. J'ai mis un mois avant de revoir mes images. Ma main tremblait, c'est tout flou. J'ai des réflexes qui sont ce qu'il faut pas faire pour un caméraman. Et donc, en sabotant un peu mes images, je mets un voile.
Et finalement, tu as quand même un scoop, parce que tu redescends et tu fais partie des rares personnes à avoir pu filmer la scène du crash.
Oui, un scoop, pas vraiment, parce que déjà, lorsque je redescends, je comprends et je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer pour mon village? Il y a une centaine d'habitants l'hiver. Je sais très bien, alors le PC est à Seyne-les-Alpes, mais je sais très bien que le lendemain, tout va arriver au Vernet, hein, c'est ce qui va se passer, il y aura 600 ou 700 journalistes. Mais non, d'abord le scoop, je filme mal, ça c'est un premier élément. Ensuite, je ne cours pas en disant j'ai des images, j'ai des images, j'ai des images. Elles sont réservées puisque iTélé m'a demandé de travailler à la chaîne de Canal+. Et puis ensuite, donc c'est pas possible pour moi. Donc je sais aussi, et ça aussi c'est un réflexe peut-être de journaliste, je sais aussi que ces images, elles seront finies le lendemain. Elles ne valent qu'aujourd'hui parce qu'effectivement, je suis un des premiers à avoir filmé au sol.
Après avoir décidé de te rendre sur le lieu du crash, après avoir été face à cette scène que tu n'arrives même pas à regarder, que tu n'arrives même pas à filmer, tu redescends dans ton village en sachant très bien que ce village va être un poste avancé de la médiatisation de cet événement, de ce crash. Et tu arrives sur place et tu découvres que c'est exactement ce à quoi tu pensais.
Oui, déjà, le premier soir, je me rends à Seyne-les-Alpes, qui est le chef-lieu de canton, qui compte 1500 habitants. Toute la presse mondiale est là. Il n'y a personne au Vernet. Mais je dis à des confrères à Seyne, vous verrez demain, c'est au Vernet que tout va se passer. On ignore encore que François Hollande, Rajoy et Merkel doivent venir. Mais comme c'est le premier accès terrestre et que c'est face à la montagne, c'est sûr que ça arrive là. Et moi, je dors chez un ami qui est juste au-dessus de l'endroit du PC qui est installé. Et je vois, à partir de 6h du matin, arriver 5, 10, puis 20 véhicules, puis bien sûr la gendarmerie, plus une compagnie de CRS. Tous les chemins du village sont bouclés. Et les journalistes qui très vite le lendemain commence à faire ce que j'appelle la chasse aux témoins ou la chasse aux scoops. Et là il y a des scènes que l'on m'a racontées, j'en ai vu certaines. On rentre chez les gens, est-ce que vous avez vu quelque chose? On fait une espèce de casting villageois, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Celui qui a un pantalon en velours, qui a un bon accent provençal, enfin un accent de Haute-Provence, intéressera les journalistes. Et je les vois s'égayer autour du PC, ne sachant pas trop quoi trouver, n'ayant pas trop d'infos, mais devant alimenter la grosse machine de l'information continue.
Et tu es un peu tiraillé, étant toi-même un habitant de ce village, et étant toi-même un journaliste de profession qui a connu cette excitation du direct, de l'événement qu'il faut raconter immédiatement, etc.
Oui, le problème, c'est que le fait d'être à la fois journaliste, de connaître à peu près les réflexes des journalistes qui font leur métier, ça je le dis très clairement, et le fait d'être moi-même un habitant d'adoption du village, c'est là où j'ai l'impression d'avoir un double regard, c'est-à-dire qu'à certains moments, je comprends l'attitude des journalistes, je donne des conseils, je leur donne même des quelques infos, voilà, et puis donc à certains moments, je fais un pas de côté pour redevenir le villageois et les regarder se comporter.
48 heures après le crash, tu décides de quitter le Vernet, notamment tu l'expliques pour ne pas croiser les familles, c'est trop douloureux et tu n'as pas envie de vivre ça. Et tu décides de revenir un mois après Et tu découvres évidemment que ce village que tu connais depuis toujours a été changé, à la fois bien sûr par la catastrophe, mais aussi par le déferlement médiatique qu'il a connu pendant quelques jours.
Oui, il y a eu le choc, le trauma. Hein, moi, je pense, je suis pas du tout un porte-parole du Vernet. Je pense que le trauma, il est profond, hein, et également pour Prats, Haute-Bléone et pour Seine-les-Alpes, qui est le chef-lieu de canton. Il y a ce trauma. Le déferlement médiatique a été, plutôt mal vécu, mais moi je le répète, hein, les journalistes font leur travail dans cette course à l'info. Je crois que je cite notre confrère Hubert Huertas, cette phrase m'avait beaucoup frappé, j'ai pensé. Il a écrit « Vaut mieux une connerie d'avance qu'une info de retard ». Donc, je le disais tout à l'heure, les journalistes étaient partout. Mais je comprends déjà aussi que dans 48 heures, ce sera terminé. Que dans 3 jours, il y aura 100 journalistes, que dans une semaine, on fera encore des sujets, puis que le Vernet ne sera plus le centre du monde médiatique comme il a été. Et je me dis, mais par contre, le regard qu'ont les villageois, qu'ont mes amis sur la montagne, plus jamais il sera le même. Et j'intègre déjà, peut-être que je me trompe, je pense que dans 150 ans, on aura encore des traces, même si elles vont s'estomper. Mais là, on est à peu près à 6 mois après le crash. Je peux vous dire que les gens, c'est toujours difficile. Ils me disent, moi je regarderai plus la montagne de la même façon. On lève la tête dès qu'on voit un avion, on voit la trace, hein, l'avion est à 10 000 mètres, dans le même couloir aérien que celui dans lequel était l'avion de la Germanwings. Et ça crée quand même un malaise. Et je pense que ce traumatisme, il est durable. Et ça crée un sentiment un peu d'être dépossédé de sa montagne parce que l'accès n'est toujours pas ouvert. Et quelqu'un m'a dit, par exemple, j'avais l'impression d'être puni parce que non seulement... ce grand malheur nous est tombé sur la tête, on ne comprend pas pourquoi. Mais en plus, la montagne est fermée. Alors que la montagne soit fermée, c'est normal, il y a eu une enquête criminelle. Maintenant, il y a une dépollution qui est en cours, là, en ce moment, au Vernet. J'étais il y a quelques jours. Mais ce mot, je crois que je le cite dans le livre, être dépossédé de la montagne, je l'ai trouvé assez fort. Et ça va, à mon avis, durer.
Et ce manque d'accès à la montagne, c'est propice aussi au développement de théories du complot. Les gens ont l'impression qu'on leur cache des choses, etc., etc.
Ils l'ont dit un temps, mais ils ont bien compris la chose. Moi, j'ai entendu assez vite, parce que dans ce genre de catastrophe, moi, la première chose qui m'a choqué, peut-être que je me trompe, j'ai vu sur un site internet d'une chaîne d'infos, dont je dirais pas le nom, que les loups allaient dévorer les cadavres. Bon, moi, ça m'a un peu choqué, parce que c'était vraiment de la précipitation. Je pense que c'est quelqu'un dans le village qui a dit ça à une journaliste ou un journaliste. Mais non, le fait de cacher quelque chose, j'ai entendu quelques théories. D'ailleurs, j'ai été contacté par des enquêteurs, amateurs, qui m'ont dit un mirage qui était par là. C'est totalement impossible. Hein. Non, les gens simplement demandent quand est-ce. Et en plus, j'ai trouvé, lorsque je reviens au Vernet, j'ai un peu mené une enquête journalistique sur les derniers témoins. D'ailleurs, il y en a un que j'ai entendu en début d'émission, j'ai reconnu sa voix, je sais qui c'est. Mais j'ai retrouvé en recoupant, parce qu'on m'a dit, oui, il y a quelqu'un qui a fait des photos de l'avion en vol, etc. Moi, j'ai retrouvé, j'en parle dans le livre, une dame qui était en randonnée ce jour-là, ce qui me semblait totalement impossible parce qu'il faisait très mauvais. Et elle a vu passer l'avion à 2 secondes avant impact. Donc toutes les théories, ce témoignage vérifié, hein, elle a témoigné à la gendarmerie nationale, hein, elle n'a pas voulu parler à la presse, elle a accepté de me recevoir. Elle voit passer un avion juste au-dessus d'elle, et puis 2 secondes après, elle voit un grand champignon noir. Donc c'est vraiment que l'avion était allé s'écraser, c'est bien le scénario qui a été décrit. Hein. Non, il n'y a pas de vision.
Merci Nicolas Balic. Retour au Vernet, mon village après le crash, est publié aux éditions Gossen, on dit bien Gossen. Hein.
Édition Gossen à Marseille, oui.
C'est un livre... étrange, on peut dire, qui mêle à la fois une interrogation fondamentale sur ce que sont les masses médias et comment un petit lieu peut être témoin d'une catastrophe et de quelque chose qui va changer son futur. Et c'est aussi, on peut le dire, une déclaration d'amour à cette petite zone reculée de France.
Oui, je me suis rendu compte après, parce que je l'ai relu une fois que je l'avais en main, que c'était aussi une approche, alors ça paraît prétentieux, hein, c'est une approche territoriale, c'est l'approche d'un territoire, d'un village, comme il y en a des centaines en France, qui se retrouvent soudainement confrontés à un terrible malheur. Je précise que ça a été un livre, enfin il a été difficile de le concevoir, de dire, parce que je me suis posé énormément de questions, comment les gens vont m'accueillir au Vernet, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je me trompe pas de voix en le faisant. Et ensuite, je le dis aussi, il a été d'une aisance à écrire, c'est-à-dire que je tapais sur mon ordi, ça, les mots sortaient tout seuls. Et ça, ça m'a fait aussi du bien, ça m'a permis de relativiser. Mais je pense toujours que le plus grand malheur, et c'est la réponse à la question pourquoi j'ai pas voulu croiser les familles. Moi, je pense surtout à ces familles endeuillées, sans comprendre pourquoi. Et je crois que c'est un petit fil rouge. J'ai eu tout le temps en tête les 16 lycéens de ce petit lycée en Allemagne qui partent faire un voyage à Barcelone, qui devaient être heureux dans cet avion et qui disparaissent par la folie, parce que c'est la folie d'un homme qui provoque cette catastrophe.
Merci Nicolas. À suivre dans la deuxième partie de l'émission, notre entretien avec Sébastien Descarède, auteur et co-réalisateur du web-documentaire Sarcellopolis, lauréat du Visa d'Or à Perpignan la semaine dernière.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, bienvenue si vous nous rejoignez. Sarcellopolis, c'est le nom du web-documentaire lauréat du Visa d'Or à Perpignan. Nous retrouvons tout de suite son auteur. Dans 20 minutes, Francis Pisani nous explique pourquoi les villes n'existent pas.
L'atelier des médias, la web-émission participative.
Déjà le retour, j'annonce la couleur de mon discours. Compte à rebours sur le beat, t'es hors concours. Est-ce mission pour mon groupe, le ministère. L'homme de main au platine prouve qu'on est de taille. J'oublie un détail, j'ai toute la médaille. Prends-toi une paille, mais pas pour un rail. Et sniff ce jeu de mots avant que je ne m'en aille. Puis j'ai peu de temps, je suis pas au courant. Mon département,
9-5-2-5.
Verso, facile dans le duo. On perd sur tempo de l'encre, pas de listo. Une fois, deux, trop, huit, trop, c'est trop. Ma valente à sono, abuse du jeu de mots, exploite les infos, dénonce les fléaux. Donc, aussitôt, voici les propos. Les victimes sont gallo-romains et anglo-saxons et bigons. Acquièrent la leçon depuis bien longtemps. Car entre notre argent, nos richesses disparaissent sans cesse. Qu'en pense la presse? Absence de mots, pendant qu'ils bouffent sur notre dos. Trop d'escrocs à niveau fardeau sur notre peau. As-tu vu le résultat? Vois le poids des CFA. Qui est réellement roi de nos états? Le savoir est une arme. Maintenant, je sais.
Il ne fait pas qu'apprendre, il dévore les informations.
Le savoir est une arme, maintenant je sais.
Il ne fait pas qu'apprendre, il dévore les informations.
Le savoir est une arme, maintenant je sais.
Il ne fait pas qu'apprendre, il dévore les informations.
Le savoir est une arme, maintenant je sais.
Il ne fait pas qu'apprendre, il dévore.
Je te parle de savoir.
RFI.
Bonjour Sébastien Descarède.
Bonjour Ziad.
Tu es auteur et co-réalisateur de Sarcellopolis, le web documentaire lauréat du Visa d'Or ici à Perpignan. Félicitations d'abord.
Merci.
Qu'est-ce que c'est Sarcellopolis?
Eh bien, Sarcellopolis, c'est un film interactif qui propose en fait aux internautes de voyager dans Sarcelles. Sarcelles, c'est une ville en fait que tout le monde connaît ou a vu un peu à travers les médias, mais comme d'habitude, personne n'y va jamais, alors que c'est une ville finalement, c'est le premier grand ensemble en fait à avoir été construit.
Donc grand ensemble, quand on dit grand ensemble, c'est ce qu'on appelle aussi des cités, c'est-à-dire des ou corrige-moi si je me trompe, hein, c'est-à-dire que ce sont des ensembles urbains qu'on a construits dans les années 50, 60, 70, pour accueillir massivement des gens. Et dans le cas de Sarcelles, qui est une petite ville au nord de Paris, c'est une ville qui est passée quasiment du statut de village avec quelques centaines d'habitants à plusieurs dizaines de milliers d'habitants en une dizaine d'années au milieu des années 50.
Exactement, c'est la ville qui a essuyé les plâtres de ce nouvel urbanisme de l'époque. Et en fait, il y a eu un Sarcelles 1, un Sarcelles 2, un Sarcelles 3, et ça a grossi jusqu'à ce que ça devienne une ville de 60 000 habitants. Avec 90 communautés différentes.
Et donc, toi, journaliste, tu as choisi de consacrer un film interactif, un dispositif même média à cette ville.
Oui, tout à fait. C'est parce que je suis un peu tombé amoureux de cette ville quand j'y suis allé. À l'époque, en fait, c'était parti des photographies de Jacques Windenberger, qui est un monsieur qui habitait Sarcelles dans les années 60. Et ces photos m'avaient profondément touché. Parce qu'elle montrait en fait comment la ville a réussi à devenir une très belle société multiculturelle, et finalement ça montrait très bien que le vivre ensemble à l'époque dans cette ville-là, c'était pas 20 mots, et que c'était finalement ce grand ensemble, même si c'était le premier qui n'était pas parfait, ça a été l'une des plus belles réussites de notre modèle républicain en France d'intégration.
Et pourtant, aujourd'hui, l'image de Sarcelles, c'est celle d'une banlieue méconnue, peut-être crainte. Alors, il y a eu des émeutes en banlieue en 2005 en France. Sarcelles n'a pas été touchée. En revanche, en 2014, l'an dernier, il y a eu quelques événements à la suite d'une manifestation qui a été interdite en faveur de la paix au Proche-Orient.
quelque part, on fait un saut dans le temps, mais ces événements ont été un profond traumatisme pour les habitants.
Donc de 2014, hein.
Oui, de 2014. Ils sont tous extrêmement fiers de leur ville. Ils connaissent son histoire, ils sont conscients de son importance, puisque ça a été la première, le premier grand ensemble, que c'est un observatoire des banlieues.
Donc c'est une ville très très multiculturelle, donc avec des dizaines, une centaine au moins de nationalités différentes qui cohabitent.
90 communautés qui ont immigré en France depuis les années 60. Donc on retrouve une très forte communauté juive. On retrouve aussi beaucoup de musulmans de toute la planète, c'est-à-dire pas simplement d'Afrique du Nord, mais aussi du Pakistan, du Bangladesh. On a tout le monde musulman à Sarcelles. Il y a aussi des Assyro-Chaldéens, des chrétiens d'Orient, d'Irak, de Turquie. Il y a beaucoup d'évangélistes d'Afrique de l'Ouest ou du Congo. Donc on retrouve tout le monde et toutes les religions.
Donc au milieu des années 50, on décide de construire de grands ensembles pour accueillir notamment les migrants, pour accueillir aussi les Français ou les personnes qui reviennent d'Algérie. On imagine qu'on est en train de construire la ville du futur. On la présente même comme la ville du futur, la ville de l'an 2000. Et puis petit à petit, l'image de cette ville évolue vers celle d'une banlieue dortoir, méconnue, crainte, etc. C'est un petit peu ça que tu as voulu explorer.
Oui, c'est un petit peu ça. Il s'agissait effectivement d'abord de rendre hommage à la diversité de cette ville, de raconter que justement, c'est pas qu'une cité dortoir, c'est pas une ville dortoir. Quand elle a été créée, en fait, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de préjugés sur les banlieues. Les gens pensaient que ces blocs de béton ne pouvaient pas engendrer une société, que l'habitat, ça devait être le pavillon, que le modèle français, c'était de vivre en petit pavillon. Et ça choquait beaucoup de gens. Et finalement, les Sarcellois se sont mobilisés pour faire de cette ville une société, c'est-à-dire avec des lieux de vie, des forums, des espaces collectifs qui n'existaient pas lorsque la ville a été construite. Et du coup, à l'époque, on parlait de sarcellite, on parlait de maladie des grands ensembles à propos de Sarcelles. Sarcelles avait donné son nom à la sarcellite, qui était une maladie qui était diffusée dans les médias. Et c'est ce qui a fait justement que la ville s'est mobilisée pour faire quelque chose, je dirais, de beau, où on voyait dans les cafés aussi les gens de toutes les confessions, de toutes les origines se mélanger et coexister paisiblement.
Alors on va parler de la manière dont vous avez choisi de montrer Sarcelles aujourd'hui. Avant ça, peut-être un mot sur le titre Sarcellopolis. C'est pas vous qui avez inventé ce titre, c'est le titre d'un livre signé Marc Bernard. Alors Marc Bernard, ça parle pas peut-être à nos contemporains, mais c'était un auteur connu dans les années 60 qui a reçu le prix Goncourt en 1942 et qui a écrit un essai sur Sarcelles. Peut-être que tu peux nous raconter l'histoire parce que c'est une histoire assez intéressante.
Marc Bernard, c'est en fait un monsieur donc effectivement qui avait obtenu le prix Goncourt et à l'époque de la Sarcellite, justement, son éditeur lui dit « Est-ce que tu ne voudrais pas te rendre dans cette ville et y résider pendant 3 mois ?» Voilà, cette ville nouvelle, en fait, ça représentait la modernité à l'époque. C'était la ville du futur, comme tu le disais. Et du coup, il y habitait pendant 3 mois en racontant toutes les péripéties d'installation des habitants et toutes les questions qui se posaient à l'époque, déjà liées aussi à la multitude de communautés qui s'installaient.
Alors, je vais citer la préface de ce livre qui est donc signé par l'auteur Marc Bernard, livre qui a été publié en 1964. « J'acceptais de tenter l'aventure de partir vers le Grand Nord pour Sarcelles, car j'avais mis une condition expresse à cet accord que je paierais de ma personne, suivant à la lettre le conseil de Pascal qui ne croit que les témoins qui se font égorger. Je ne voulais rien affirmer que je n'ai connu personnellement. C'est ainsi que pendant 3 mois, j'ai vécu dans un univers dont je ne soupçonnais même pas l'existence avant d'y être allé, tant il est vrai que les traits essentiels de notre époque nous échappent. Ce que nous croyons important est déjà dépassé, alors que ce que nous n'avions pas vu ou que nous avions mésestimé viendra au premier plan. L'avenir se modèle sous nos yeux, mais nous sommes aveugles. » Alors j'ai choisi de citer cette préface parce que sa démarche est intéressante. En fait, il décide pour parler de Sarcelles et c'est une commande qui était peut-être un petit peu mal intentionnée, c'est-à-dire qu'on a demandé à un essayiste d'aller raconter et puis peut-être détruire un petit peu l'image de cette ville. Il décide d'aller s'y installer et de raconter son installation avec sa femme, ses deux oiseaux pendant 3 mois dans un appartement de Sarcelles.
Un logéco, comme on disait à l'époque.
Un logéco.
Oui, les logements économiques, on construisait en masse, donc on faisait des bars, parce que c'était moins cher. Donc on suivait le chemin de grue et on construisait en masse des logements standardisés. Mais en même temps, c'était une architecture républicaine, c'est-à-dire que tout le monde était logé à la même enseigne et allait aux mêmes écoles. Et du coup, ça a créé effectivement, encore une fois, une société assez égalitaire au départ. Et puis au fur et à mesure du temps, des inégalités se sont creusées entre les gens.
Et ce pour revenir sur la démarche de cet auteur, ça rappelle un peu ce qu'a fait le Bondy Blog en 2005, c'est-à-dire ces journalistes suisses qui ont décidé de s'installer à Bondy pour regarder ce qui se passe. Ça rappelle aussi la démarche aujourd'hui d'un écrivain quasi-journaliste, Prix Albert Londres, comme Jean Rollin. Et c'est assez intéressant. Et finalement, lui, ce qu'il découvre, c'est le multiculturalisme, c'est aussi le confort, parce qu'il raconte dans le livre qu'il est parisien, qu'à l'époque, les salles de bain sont exiguës, etc., que c'est compliqué de vivre à Paris, et il découvre finalement le confort de ces nouveaux ensembles.
Finalement, il rend justice à Sarcelles, il en tombe amoureux lui aussi, et il lui rend justice en lui disant que finalement, ce qui était en train d'émerger, c'était une société intéressante, et qu'il fallait laisser sa chance à cette ville.
On va parler maintenant du dispositif, du web documentaire, et avant cela, on va écouter un extrait de ce web documentaire et des nombreux témoignages de personnes, des portraits des personnes que vous avez rencontrées pour raconter cette ville.
Sarcelles, pour moi, c'est une ville pilier, puisque bon, avec toutes les ethnies, toutes les religions qui se rencontrent, on aurait pu voir des choses pas agréables du tout, mais c'est pas du tout le cas.
Il faut qu'on se réveille maintenant. Il faut aller voter.
Sur la forme, ça évolue, mais sur le fond, j'ai l'impression que ça a perdu vraiment de consistance. Pour ceux qui vivent dans le bas du grand ensemble, là, ce qu'on entend partout, d'apartheid social, enfin, moi je pense que c'est plus un apartheid social qu'un apartheid entre guillemets ethnique ou communautaire. Ceux qui se retrouvent là, c'est ceux qui sont le plus en difficulté. Il se trouve malheureusement en France que ceux qui sont plus en difficulté, c'est souvent les Français issus d'immigration.
Je suis une élève au lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, je vais avoir 18 ans. Je suis d'origine britannienne et bretonne. Je veux vraiment être médecin, je veux être utile aux autres. Et puis moi je vais être chirurgien traumatologue. Donc je sais qu'à l'armée, forcément, je pourrais faire cette voie.
C'est le seul souvenir, je pense, de ma famille en Turquie. Ici, ma mère, avec mon père à côté, donc avec les vêtements traditionnels. Et on voit vraiment un grand décalage. Et on se demande comment ils ont fait en venant en France. Le choc de culture.
On a entendu dans cet extrait du web documentaire la voix d'Eddie, le conducteur de bus. Alors lui, c'est un petit peu le fil conducteur de ce web documentaire, parce que vous avez choisi donc de centrer la découverte de la ville de Sarcelles autour du trajet d'un bus qui est emprunté par les habitants qui traversent la ville.
L'idée, c'était effectivement de retranscrire l'expérience qu'on avait vécue nous-mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, ceux qui connaissent le mieux une ville, ce sont finalement les chauffeurs. Et donc, on avait beaucoup discuté avec les chauffeurs et on avait remarqué aussi Eddy, qui avait 20 ans de ligne, qui était lui-même originaire de Sarcelles. Et d'ailleurs, la plupart des chauffeurs qui sont sur la ligne souvent sont originaires de Sarcelles. Comme ils s'y sentent bien, ils continuent à y travailler, même s'ils n'y habitent plus. Et donc, il nous parlait très bien de cette ville et de son métier. C'est un service public, c'est le premier représentant aussi de l'État, et donc sont les personnes qui ont un regard intéressant à porter sur cette ville et qui sont aussi soumis au centre des problèmes ou des préoccupations des gens.
Et donc, quand on arrive sur sarcellopolis.com, on clique pour entrer dans votre œuvre multimédia, et là, on a 20 minutes de trajet. Et on peut choisir soit donc de rester avec Eddy, de l'écouter, de voir le trajet avec lui, soit d'alterner ou même de quitter Eddy pour aller rencontrer les différents passagers. Vous en présentez une petite dizaine.
De mémoire, il y en a 8.
Donc là, ce sont des portraits d'habitants de Sarcelles qui sont dans le bus, mais qu'on découvre dans leur quotidien. Il y a Bambi, la jeune lycéenne mauritanienne et bretonne qui veut devenir chirurgienne traumatologue. Il y a Belkacem, le retraité algérien installé là depuis 50 ans. Il y a Michel, l'éducateur culturel. Madeleine, la syro-chaldéenne. Nabil, le politicien local, qui s'est rendu célèbre. On va peut-être revenir sur ce personnage. Luigi, qui voulait devenir footballeur. Et Arié, qui est un avocat et qui a d'ailleurs été l'avocat de Nabil.
Le choix des personnages, en fait, il correspond à plusieurs critères aussi, une volonté. Déjà, on voulait sortir un peu des clichés. Donc, on ne voulait pas mettre en avant forcément des jeunes qui ne réussissent que à travers le sport et le rap. Ce sont souvent des clichés qu'on a sur les banlieues. Et du coup, on a l'impression que la réussite ne passe que par ce biais-là. Donc, Bambi, de ce point de vue-là, elle nous a intéressés. On a parlé aussi de rénovation urbaine avec Belkacem. Donc de tout ce qui est finalement, quand on rénove une ville, la réflexion sur la future société, donc le changement de société en fait qui s'opère à Sarcelles, on détruit et on reconstruit, pas simplement des nouveaux bâtiments, mais des résidences et donc une nouvelle société derrière. On a aussi voulu rendre hommage aux acteurs de l'éducation populaire à travers Michel, qui sont des acteurs très importants dans les banlieues, l'intégration, elle passe pas que par l'école. On met beaucoup de choses sur le compte de l'école, alors que des gens aussi du secteur associatif, ils jouent un rôle primordial et la culture à Sarcelles est foisonnante. Il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui crée encore du lien ou qui peut encore créer du lien entre les gens.
Et vous avez aussi souhaité parler de la vie politique locale à travers le personnage de Nabil, donc qui a monté une liste d'habitants sarcellois politiques pour les élections cantonales, c'est ça ? Et qui s'est rendu célèbre en organisant la fameuse manifestation qui a dégénéré en émeute en juillet 2014, une manifestation qui a été interdite. Et il a été poursuivi pour les conséquences de cette manifestation avortée dans un premier temps. Et finalement, les charges ont été abandonnées parce qu'il a été prouvé qu'il avait lui-même tenté de calmer les choses en venant simplement dire aux gens que la manifestation était interdite et qu'il fallait donc se disperser.
Nous, on n'a pas voulu en fait prendre parti. Nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est ce qu'il avait à raconter, à porter. C'est cette voix-là que beaucoup de gens ne veulent peut-être pas entendre, plus entendre. Elle représente quand même aussi quelque chose à Sarcelles, puisqu'il a fait aussi 10% des voix lors des dernières élections. Donc il ne s'agissait pas de donner une tribune politique, mais il s'agissait d'écouter le message qu'il porte et ce qu'il représente. Il représente en fait, grosso modo, la voix des gens des cités, en fait, qui ne vont pas voter aux élections, puisqu'il y a 60% d'abstention à Sarcelles. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous a intéressés.
Et on rencontre aussi son avocat, Arié, qui est, lui, est juif, a même étudié dans des écoles juives, etc. Et a accepté, malgré cela, et contre l'avis de beaucoup de personnes de sa communauté, de défendre Nabil dans cette histoire.
Ça aussi, c'était quelque chose dans la relation entre les deux est très importante. Arié et Nabil sont tous les deux originaires de la ville. Et ils se sont retrouvés ensemble autour de valeurs communes et d'un même constat partagé sur cette ville. D'où la volonté d'Arié de défendre Nabil. Ce qui est intéressant aussi, ce qui en dit long aussi sur le contexte actuel, on a reproché en fait beaucoup à Arié d'avoir défendu un musulman au sein de sa propre communauté. Ça nous semblait intéressant parce que c'est des choses qui sont plus concevables aujourd'hui. On est arrivé au point où ça n'est plus concevable. Et puis il y a autre chose aussi qui nous a intéressé à travers le personnage d'Arié Halimi, c'est effectivement le fait qu'il voulait nous montrer le repli qui s'est opéré à Sarcelles et aussi au sein de la communauté juive, où maintenant on retrouve des écoles privées avec des murs de plusieurs mètres de haut
de protection
qu'on peut trouver ailleurs dans d'autres pays, et donc un enfermement qui se crée petit à petit, qui est dû évidemment, il ne faut pas nier, à la montée de l'antisémitisme, mais qui est aussi dû au fait que il y a aussi une montée des religions qu'on observe en France et à Sarcelles.
Justement, j'allais dire, cette ville qui a été développée dans les années 50-60 comme une projection du futur, aujourd'hui elle est un petit peu une interrogation sur notre quotidien, sur notre capacité à nous projeter, à vivre ensemble. C'est une interrogation sur le communautarisme. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ça qui vous a intéressé? C'est ça que vous avez voulu interroger dans votre documentaire?
C'est exactement ça. C'est qu'on retrouve à Sarcelles toutes les questions que la société française aujourd'hui se pose sur l'intégration et sur la conjonction des identités. C'est-à-dire que on n'est plus la Troisième République, c'est terminé. L'assimilation, ça n'a même jamais fonctionné, en fait, en France. Ça n'a jamais existé. C'est un mythe. Il n'y aura pas une identité nationale qui se superposerait ou qui effacerait toutes les autres. Il y a plusieurs identités que les gens ont besoin de conjuguer. Et Sarcelles est diverse et belle et riche parce que, justement, il y a des identités multiples. Et il y a aussi, dans des espaces comme les banlieues, un fort besoin de solidarité. C'est le maître mot, c'est ce qui fait qu'une banlieue tient, c'est la solidarité. Et donc on trouve effectivement dans les communautés cette solidarité qui permet aux gens de bien vivre. Mais effectivement, ça mérite aussi d'être tempéré, de réfléchir à comment on peut conjuguer un modèle républicain, on va dire, pur et dur, et peut-être un modèle peut-être plus anglo-saxon. Voilà.
Sébastien Descarrettes, tu as travaillé toi sur ce projet pendant 3 ans, donc on l'a bien compris, c'est une ville très symbolique qui pose beaucoup de questions quant à l'avenir, quant au vivre ensemble dans notre pays et peut-être même dans le monde. Qu'est-ce que c'est les réponses et les éléments qui t'ont paru intéressants après ces 3 ans d'expérience? Qu'est-ce que tu en as tiré? Quelles sont les réponses qu'apporte cette ville aux maux de nos pays, aux questions qu'on se pose par rapport au futur?
Je pense que les réponses sont à trouver dans l'histoire en fait de la ville, c'est-à-dire que Sarcelles a quelque part dans son ADN les réponses à ces problèmes, puisque ça a fonctionné dans les années 60 à 80. Donc ce qui a fait que Sarcelles a fonctionné, ce qui a fait que Sarcelles a créé une société, c'était la possibilité pour chacun de vivre aussi avec son identité d'origine, de pouvoir construire ses lieux de culte, tous ces endroits effectivement qui lui sont chers, ses lieux de mémoire, etc. Et on retrouve tout ça à Sarcelles. Donc de cultiver son identité, tout en ayant aussi des espaces collectifs. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à Sarcelles, c'est des lieux qui font le lien entre les gens. Donc ça, c'est une première réponse. Et la deuxième réponse, effectivement, c'est le fait de laisser, encore une fois, aux gens la possibilité de s'approprier un territoire. C'est-à-dire de ne pas les enfermer dans des cases. Et c'est le collectif qui fera que Sarcelles s'en sortira, comme ça a été le cas avant.
Merci Sébastien Descarrettes. Sarcellopolis est à retrouver sur le site sarcellopolis.com. Il est produit par François Cusset. Tu en es l'auteur, le co-réalisateur avec Bertrand Devey, et la photographie est signée Cédric Femali. Concernant le livre signé Marc Bernard, il a été réédité par les éditions Finitude en 2010. Vous trouverez bien sûr plus d'infos sur l'atelier des médias, sur ces différentes références. Dans un registre proche, je signale la sortie de Good Morning Montreuil, un travail photographique réalisé à l'iPhone, au téléphone intelligent, par Jean-Fabien, autour de sa ville Montreuil, une autre ville emblématique de la banlieue parisienne. Good Morning Montreuil est édité aux éditions de Juillet. À bientôt.
Merci Ziad. J'en profite juste pour signaler que le film interactif sera aussi mis en ligne sur le site de Mediapart le 18 septembre et que un documentaire radio sera diffusé sur France Culture le 16 octobre et puis qu'il y aura aussi un documentaire télé qui sera sur France 3 Île-de-France le 17 octobre.
Merci.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Oui, ça me fait plaisir de te retrouver, de retrouver nos éditeurs après ces interminables vacances.
Moi aussi, ça me fait plaisir. Tu veux aujourd'hui nous expliquer que nous ne vivons pas dans des villes.
Bien, moi, préciser ma pensée. D'abord, soyons clairs, nous vivons dans des espaces denses où le béton, la brique et la pierre l'emportent sur les arbres, les champs et les fleurs. Mais il me semble important de s'interroger sur la réalité de ces territoires délimités, dotés d'une personnalité juridique et politique que l'on appelle Bordeaux, Barcelone, Berlin, Boston ou Beijing, entre autres. Prenons un exemple. À quoi fait-on allusion quand on dit « je vis à Paris » ou « Paris est en train de devenir une ville intelligente » ? La réponse simple, c'est qu'on parle de ce qui se trouve à l'intérieur du boulevard périphérique, du territoire placé sous la responsabilité, l'autorité de la mairie de Paris. Or, cette affirmation est inadéquate, à mon avis, pour plus d'une raison. La première est qu'un très grand nombre de ceux qui se disent ou se sentent parisiens logent hors les murs ou en sortent pour travailler. La réalité de nos échanges, des flux, de nos besoins se résolvent au niveau de l'agglomération plutôt que de la ville elle-même, de la municipalité. Nous essayons d'y répondre avec les regroupements de communes, les créations comme le Grand Paris. Mais, quelle que soit sa taille, l'ensemble juridique affirmé est toujours en retard d'un métro, d'une nouvelle banlieue et, dans trop de villes du monde, d'un bidonville non autorisé. En clair, le statut est toujours en retard sur la réalité, surtout à une époque où l'urbanisation s'accélère, et ça n'est pas tout. Quelle que soit la taille de l'agglomération, notre vie a souvent plus de sens à l'échelle du dessous, qu'il s'agisse de l'arrondissement, du quartier, voire même de la rue ou d'un pâté de maison. C'est pour ces raisons que je mets en question l'affirmation selon laquelle nous vivons dans des villes approchées au niveau des municipalités.
Et à quoi ça sert de remettre en question cette affirmation à tes yeux ?
Écoute, d'abord, ça sert à faire réfléchir, à commencer par moi, mais pas seulement, éventuellement. Permets-moi de te donner un exemple récent. Le raisonnement que je viens de t'exposer m'a poussé à déclarer de façon volontairement provocante « Personne ne vit dans des villes ». C'était lors d'un débat qui a eu lieu dans le cadre de la conférence « Cities for Lives » qui s'est tenue à Medellín, en Colombie, les 31 août et 1er septembre dernier. Il s'en est suivi une conversation passionnante au cours de laquelle Pilar Conesa, co-responsable du Smart City Expo World Congress de Barcelone, a rappelé, à juste titre, qu'il faut tenir compte des réalités, c'est-à-dire des villes et de leurs compétences. Ce sont bien les municipalités qui gèrent l'essentiel de nos vies locales et délivrent une bonne partie des autorisations dont nous avons besoin. Mais pour sa part, Antoni Gutiérrez Rubi, toujours de Barcelone et fondateur de appsforcitizens.org, initiative pour faciliter l'engagement social et politique, a souligné que la crise générale des institutions n'épargne ni les compétences qui ne sont jamais satisfaisantes, ni les territoires qui ne sont pas seulement physiques. C'est pourquoi, a-t-il déclaré, nous ne pouvons pas nous en tenir seulement aux institutions légitimisées, c'est-à-dire, en l'occurrence, aux municipalités.
Et si on dépasse la théorie, quel effet concret cela peut avoir d'affirmer que nous ne vivons pas dans des villes ?
Écoute, ça va en effet plus loin, notamment, à mon avis, quand on s'intéresse aux villes intelligentes. Si l'on accepte le raisonnement, aucune municipalité ne correspondant, quelles que soient ses compétences, aux réalités de la vie urbaine, aucune d'entre elles ne peut être décrétée intelligente. Il ne s'agit pas de leur opposer un autre découpage administratif, mais une autre façon d'aborder les problèmes. Au lieu de prendre en compte les villes, il me semble préférable de s'intéresser aux projets et aux programmes mis en œuvre pour contribuer à rendre les espaces urbains plus intelligents, mais aussi plus humains et mieux connectés. Les projets, pas les villes, dont la réalité est discutable. Cela devrait permettre de prendre en compte plus d'efforts réels en partant non pas de ce que les institutions promettent, mais de ce que les gens font réellement.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut retrouver tous tes écrits sur francispisani.net et bien entendu sur le site de l'Atelier des médias. À bientôt.
À très bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 392 de l'Atelier des médias proposé par Marie-Catherine Beut, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadaoui, Simon Decreuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur rfi.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir ou de vous déplacer dans la campagne ou dans la ville, les villes existent malgré tout, vous faites bien, partagez cette pratique autour de vous, le podcast, et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.